Bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins.
Didier, tu peux pas, quand tu vois quelqu'un, tu peux pas d'entrer comme ça, lui sentir le cul.
Je sens pas le cul des filles, ouais. Sauf si c'est elle qui demande, si c'est elle qui demande, tu vois avec elle.
Les animaux ont-ils une existence, une subjectivité, une conscience? Ont-ils un monde à eux ou partagent-ils le nôtre? Et pourquoi la réponse à ces questions ne va-t-elle pas de soi? Des humains aux animaux, même combat, on ne sait jamais vraiment de quoi ni de qui on parle. Mais peut-on réfléchir sur les animaux sans prétendre parler à leur place? L'équipe des Nouveaux Chemins est composée d'animaux philosophants qui savent bien de quoi ils parlent et qui répondent aux doux noms d'Antoine Ravon, Marianne Chassor, Colomba Grossier, Lucie Tardy, avec Lise Combe cette semaine à la réalisation, Bruno Gagnère-Fontani à la prise de son et le papillon qui vous propose ses 2 minutes quotidiennes à 10h51, c'est Géraldine Mosna-Savoie. Bonjour chère Géraldine.
Bonjour chère Adèle et bonjour à tous. Eh bien je suis très contente aujourd'hui de parler du livre de la géniale Martha Nussbaum, La fragilité du bien, qui est paru en 1986, mais paraît aujourd'hui en français aux éditions de l'Éclat.
Excellente idée, rendez-vous à 10h51. L'animal miroir, troisième temps. Après Élisabeth de Fontenay qui, lundi, s'est interrogée sur la philosophie à l'épreuve de l'animalité, de Marguerite Duras à Jacques Derrida, et Patrick Dandré qui, hier, vous a fait entendre les fables de La Fontaine de manière inédite, reprenons aujourd'hui le fil de notre réflexion philosophique sur les animaux en compagnie de Florence Burga, qui est directrice de recherche à l'INRA, l'Institut National de Recherche Agronomique, et membre des archives Husserl de Paris, également co-rédactrice de la revue trimestrielle du droit animalier et l'auteur d'un livre sur la condition animale intitulé « Une autre existence » publié chez Albin Michel, qui vient aujourd'hui vous présenter les bienfaits d'une phénoménologie du monde animal. Mais oui, bonjour à vous Florence Burga.
Bonjour Adèle Van Rett.
Oui, il regarde, il cherche, il regarde s'il n'y a pas de la nourriture. Ah, regarde, t'as vu ? Il prend avec ses mains.
Ils sont beaux. Il est tout poilu. Ça ressemble étrangement à l'homme.
Oui, hein.
Il a réussi à faire lui. Mais sauf que l'homme, ça a pas de... Enfin, ça a des poils, mais beaucoup plus petits.
Ouais. Oui. C'est laquelle, Nénette ?
Je pense que regarde la grosse tête.
Regarde, on doit que c'est elle, Nénette.
Regarde le croquet.
Ah, si, c'est ça.
Mais c'est pas assez simple.
Si !
Ah oui !
Tubo.
Mais non, mais la grosse truc qui part du cou.
Mais c'est la mère de Tubo.
Waouh ! Il est musclé. Il est musclé à ses bras, lui. Waouh !
Le monde animal est, ou peu s'en faut, encore moins capable que les autres sphères de la nature de présenter un système rationnel d'organisation qui soit en lui-même indépendant, de tenir ferme aux formes qui seraient déterminées par le concept et de les empêcher, face à l'imperfection et au mélange des conditions, de se confondre entre elles, de se gâter et de passer en d'autres. Cette faiblesse du concept dans la nature en général ne soumet pas seulement la formation des individus à des contingences extérieures. L'animal développé, et l'homme en tout premier lieu, est exposé à des monstruosités. Mais elle soumet aussi entièrement les genres aux variations de la vie universelle extérieure de la nature, dont l'animal vit en y étant accordé l'alternance, ce qui fait qu'il n'est qu'une alternance de santé et de maladie. Le contexte de la contingence extérieure ne contient presque que de l'étranger. C'est continuellement qu'il exerce une violence et fait peser une menace de danger sur le sentiment de l'animal, qui est un sentiment d'incertitude, d'anxiété et de malheur. Florence Burgard, en quoi ce texte de Hegel, tiré de l'Encyclopédie des sciences philosophiques en abrégé, 1830, constitue-t-il un bon point de départ pour la réflexion qui nous occupe aujourd'hui, à savoir les enjeux d'une réflexion phénoménologique sur l'animal ?
Alors, ce qu'on peut retenir en particulier dans ce texte que vous avez lu, c'est la dernière phrase qui a en effet beaucoup retenu mon attention, puisqu'on peut dire qu'à l'intérieur de la tradition dans laquelle s'inscrit Hegel, dire que la disposition constante de l'animal est une disposition d'incertitude, d'anxiété et de malheur, opère une rupture très remarquable, puisque dans la tradition, on peut dire que soit il y a bien sûr la lecture mécaniste, cartésienne de l'animal, qui aura une postérité très longue dans le behaviorisme et qui n'a pas disparu aujourd'hui dans un certain nombre d'approches du comportement animal. Il peut y avoir des lectures plus sensualistes, plus empiristes, mais cette question de l'anxiété, de l'incertitude et du malheur résonne à nos oreilles comme des thématiques qui sont propres à la philosophie de l'existence, laquelle a décliné à sa façon une nouvelle grande opposition radicale entre l'homme et l'animal, en réservant l'existence à l'homme avec tout ce dont ce concept est chargé, précisément le sentiment que l'homme est apatride partout dans le monde, qu'il est déraciné, qu'il est donc précisément un être d'angoisse, un être d'inquiétude, tandis que la vie animale serait enfermée dans une sorte de béatitude parce qu'elle serait immanente à la nature, régie par les lois de la nature. Et un certain nombre de commentateurs ont du reste pu souligner que cette conception de la vie béate et déterminée par les lois de la nature renouait finalement avec la position classique, hein, humaniste, métaphysique. Donc cette question de l'inquiétude me paraît absolument fondamentale, parce que aussi elle n'entre pas dans la question de l'animal par les voies de la cognition, de l'intelligence, de la connaissance, mais bien ici d'une disposition d'être générale. Voilà, c'est ce qui me semble très important dans ce texte.
Donc la question serait de savoir si les animaux ont une existence, si l'on entend par le terme d'existence quelque chose qui se distingue de la simple vie. C'est peut-être sur cette distinction conceptuelle qu'il faut s'arrêter.
Voilà, qui se distingue de la simple vie. La simple vie, hein, c'est une occurrence qu'on trouve sous de nombreuses plumes, donc en particulier dans toute cette tradition existentialiste qui tend à considérer finalement que chaque animal est un peu l'équivalent d'un autre, hein, il n'y a pas de dimension individuelle, autobiographique, il n'y a pas précisément cette inquiétude qui est propre à l'existence, et cette simple vie relève d'une conception de la vie elle-même simplifiée. Il faut donc repartir de la question de la vie et du vivant pour s'interroger sur l'existence et non pas considérer que l'existence est quelque chose de parfaitement détaché de la question de la vie. Et l'autre chose qui est très importante que dit Hegel dans ce texte, lorsqu'il évoque le fait que cette disposition d'inquiétude est liée à l'obligation, d'une certaine manière, où est l'animal d'affronter l'extériorité et donc l'espace, c'est en relation avec la distinction qu'il fait dans sa philosophie de la nature entre le végétal et l'animal. La plante étant enracinée, elle n'ouvre pas l'espace, elle n'a pas de rapport à l'espace, tandis que l'animal est doté d'un mouvement spontané et il est jeté finalement dans cette extériorité qui ne contient possiblement que de l'étranger et qui est donc perpétuellement chargée de menaces pour lui. Donc la vie de l'animal est une vie toujours précaire et menacée. Et précisément, dans cette opposition entre vie et existence, à une vie béate ou une existence inquiète, cette dimension de menace n'est pas prise en compte.
Ce qui rapproche, ce qui distingue l'animal du végétal, mais le rapproche de l'homme.
Exactement.
La question est de savoir, et je vous la pose d'autant plus que nous recevions Elisabeth de Fontenay lundi dernier ici, qui disait qu'il y avait un point sur lequel vous étiez en désaccord, c'est sur la question du spécisme ou de l'antispécisme. À savoir, est-ce que peut-on dire que finalement l'animal et l'homme appartiennent à la même espèce, qu'il n'y a qu'une différence de degré, ou bien que ce sont vraiment deux types d'existence, pour reprendre le terme qui nous occupe aujourd'hui, bien différents?
Alors,
si tous les deux sont inquiets, c'est donc peut-être qu'ils partagent l'inquiétude, peut-être qu'ils ont.
Oui, je pense. Enfin, ce qu'Hegel permet de penser, c'est que la rupture ontologique se fait entre le végétal d'une part et ces autres sujets que sont les animaux et l'humain, avec bien évidemment toutes sortes de distinctions spécifiques à l'intérieur du monde animal et l'humain a ses, bien évidemment, ses caractéristiques et ses spécificités. Je ne fais en tout cas pas partie des gens qui pensent que le combat à mener consiste à faire disparaître ces spécificités. Et lundi, il était question de cette expression d'animal humain que personnellement je n'emploie jamais. Non pas parce que je pense que l'homme n'appartient pas à l'évolution, bien évidemment, mais parce qu'il me semble que cette notion, de toute façon, reconduit la distinction qu'elle souhaite cependant abraser, puisqu'elle introduit tout de même le terme d'humain, et que je pense que cette expression ne nous avance pas à grand-chose. Voilà. Donc sur la question du spécisme, il me semble que le spécisme consiste simplement à souligner une analogie dans des formes de raisonnement, c'est-à-dire que l'analogie qui est faite avec le racisme et le sexisme vise à faire apparaître des modes de raisonnement identiques et ne vise pas, comme je crois on le dit un peu trop vite, à confondre ces trois thématiques que sont le racisme, le sexisme et le spécisme ou les spécismes, ES et spécisme, selon d'autres traductions. Mais simplement de montrer que dans ces trois types de raisonnement, on prend un critère qu'on considère comme décisif, voire même décisoire, pour agir, alors que cela n'est pas pertinent, si vous voulez. Donc c'est de considérer, concernant le spécisme, que le seul fait d'appartenir à l'espèce humaine est un critère nécessaire et suffisant, sans que l'on examine ce qu'il y a à l'intérieur de ce concept, quelles sont ses caractéristiques. Et donc, les gens qui font valoir le spécisme et l'antispécisme vont plus loin et s'interrogent sur les critères moralement pertinents. Donc, je crois que ce concept se borne à faire apparaître une faute logique dans un raisonnement.
La question se pose en tout cas de savoir où se situe la différence entre l'homme et l'animal. C'est une différence ontologique, c'est une différence de degré, c'est une différence biologique d'espèce. Car bien souvent, lorsque, entre autres, les philosophes s'intéressent aux animaux, à la question de l'animalité, eh bien, ils ne peuvent pas le faire sans la comparer à l'humanité elle-même ou l'idée qu'il s'en fait. Et dans cette comparaison, les animaux sortent toujours perdants et sont toujours du côté du moindre être. Écoutez, Maurice Merleau-Ponty, c'était lors d'une causerie en 1948, présentait comment la pensée classique de l'animal, eh bien finalement, n'a fait que le comparer à un homme malade, voire à un homme primitif.
Il est bien connu que la pensée classique ne fait pas grand cas de l'animal, de l'enfant, du primitif, ni du fou. On se rappelle que Descartes ne voyait rien de plus dans un animal qu'une somme de roues, de leviers, de ressorts, qu'une machine enfin. Quand l'animal n'était pas une machine, il était, dans la pensée classique, une ébauche d'homme, et beaucoup d'entomologistes n'ont pas craint de projeter en lui les traits principaux de la vie humaine. La connaissance des enfants et des malades est restée longtemps rudimentaire en raison des mêmes préjugés. Les questions que le médecin ou l'expérimentateur leur posait étaient des questions d'hommes sains ou d'adultes. On cherchait moins à comprendre comment ils vivent pour leur compte qu'à mesurer la distance qui les sépare de l'adulte ou de l'homme sain dans leurs performances ordinaires. Quant aux primitifs, ou bien on cherchait en eux une image embellie du civilisé, ou au contraire, comme Voltaire dans l'essai sur les mœurs, on ne trouvait dans leurs coutumes ou dans leurs croyances qu'une suite d'absurdités inexplicables. Tout se passe en somme comme si la pensée classique s'était tenue dans un dilemme. Ou bien l'être auquel nous avons affaire est assimilable à un homme, et il est alors permis de lui attribuer par analogie les caractères généralement reconnus à l'homme adulte et sain. Ou bien Il n'est rien qu'une mécanique aveugle ou un chaos vivant, et il n'y a alors aucun moyen de trouver un sens à sa conduite.
S'il y avait de telles machines qui eussent les organes et la figure extérieure d'un singe ou de quelque autre animal sans raison, nous n'aurions aucun moyen pour reconnaître qu'elles ne seraient pas, en tout, de même nature que ces animaux. Au lieu que s'il y en avait qui eussent la ressemblance de nos corps et imitassent autant nos actions que moralement il serait possible, nous aurions toujours deux moyens très certains pour reconnaître qu'elles ne seraient point pour cela des vrais hommes. Dont le premier est que jamais elles ne pourraient user de paroles ni d'autres signes en les composant, comme nous faisons pour déclarer aux autres nos pensées. Et le second est que bien qu'elles fissent plusieurs choses, aussi bien ou peut-être mieux qu'aucun de nous, elles manqueraient infailliblement en quelques autres, par lesquelles on découvrirait qu'elles n'agiraient pas par connaissance, mais seulement par la disposition de leurs organes.
Nanette, ce qu'elle fait, c'est qu'elle observe le public. Car vous savez, quand elle était petite, il y a eu des couples d'amoureux qui se mettaient devant et qui s'embrassaient. Et après, on les voyait, Toto et Nanette, chercher, bon, c'est déjà des buccaux, mais se faire des gros, se rouler des palots et des tas de trucs. Moi, ce qui m'a pris un jour, on était tellement habitués à rentrer, j'avais gardé un sac à main et j'avais un espèce de rouge à lèvres qui, de toute façon, ne m'allait pas tellement. Et elle a arraché le sac à main, attrapé le rouge à lèvres, et elle faisait semblant de se voir sur le miroir. Elle en avait partout. Ils passent leur temps à regarder, comme ils regarderaient dans la nature, ils ont besoin.
Or, par ces deux mêmes moyens, on peut aussi connaître la différence qui est entre les hommes et les bêtes. Car c'est une chose bien remarquable, qu'il n'y a point d'homme si hébété et si stupide, sans en excepter même les insensés, qu'il ne soit capable d'arranger ensemble diverses paroles et d'en composer un discours par lequel ils fassent entendre leurs pensées. Et qu'au contraire, il n'y a point d'autre animal tant parfait et tant heureusement né qu'il puisse être, qui fasse le semblable.
Le problème est bien exposé, Florence Burgat, d'abord par Maurice Merleau-Ponty, donc qui présente la pensée classique de l'animal, oui, et la difficulté qu'elle a eue à s'emparer de la spécificité de l'animal. Oui. Puis ce texte de Descartes, extrait de la cinquième partie du discours de la méthode, qui montre que si l'animal peut imiter l'humain, et d'ailleurs c'est ce que fait l'orang-outan Nénette, on a entendu un extrait du documentaire de Nicolas Philibert, cet orang-outan qui va s'emparer d'un rouge à lèvres et se maquiller en mimant un miroir avec sa main, imitant par là l'homme, eh bien si l'animal peut imiter l'homme, il ne pourra jamais l'égaler. Comment faire pour que la réflexion, disons conceptuelle, ne tombe pas dans ses travers et réduise l'animal à un moindre être ou à un homme malade?
Alors, comme toujours, pour essayer d'aborder autrement les questions, il faut voir comment elles ont été pensées jusqu'à un certain point et pourquoi est-ce qu'on arrive toujours dans la même impasse, d'une certaine manière. Ce qui est très bien montré dans l'ensemble des textes qui, d'une certaine manière, s'éclairent l'un l'autre parce qu'ils se détruisent l'un l'autre. Chaque fois que l'on part de l'homme pour se demander ce qu'est l'animal, même s'il peut y avoir un anthropomorphisme contrôlé méthodologique, comme par exemple chez Husserl, mais on peut dire que chaque fois qu'on se pose la question de l'animal à partir de la question de l'homme, on arrive au mieux, comme le dit Merleau-Ponty dans le premier texte, à une ébauche. C'est-à-dire qu'au mieux, nous dirons que l'animal a presque un langage, presque une culture, presque une conscience, presque un monde, presque une vie de relation. Bref, nous verrons les animaux comme des ébauches de l'humain nous les évaluerons à l'aune d'une mesure qui, en réalité, ne leur convient pas. Comme par exemple qu'Anguilhem le montre dans certains de ses textes, que tant qu'on pose, et Merleau-Ponty dans un autre endroit de cette causerie, tant qu'on pose à l'animal des questions qui sont les nôtres et pas les siennes, eh bien il répond comme il peut. Si demain, un expérimentateur nous posait des questions qui sont celles de l'animal, d'un animal sauvage et pas les nôtres, nous répondrions comme nous le pouvons, mais ce faisant, nous ne manifesterions pas ce que nous sommes nous. Donc, ce qui est difficile, c'est de revenir là-dessus parce que c'est pour nous presque une lunette dont nous ne pouvons pas nous défaire. C'est véritablement un regard qui a été fortifié par toutes sortes de conceptions, de représentations, de croyances, et nous ne voyons même pas que nous portons ces lunettes pour regarder l'animal. Donc, le problème, c'est que nous ne parvenons pas à nous poser correctement la question. Donc les réponses que nous donnons sont toujours, pas simplement approximatives, elles sont parfaitement inappropriées à l'objet de la question, puisque cet objet-là, on ne l'a pas fait apparaître dans sa plénitude et dans sa singularité.
En réalité, c'est toute une méthode philosophique qui est questionnée là, parce que là on parle de l'animal. Exactement. Mais c'est tout l'enjeu de la réflexion, notamment de Merleau-Ponty, puisqu'on l'a entendu, de ce qu'on appelle donc la phénoménologie, que de montrer qu'on peut penser le monde autrement que dans un rapport de sujet connaissant à objet connu.
On peut le penser autrement, et c'est donc en partant de la radicalité de l'interrogation phénoménologique en particulier que nous pouvons, à mon avis, renouveler de façon véritablement féconde notre interrogation sur la singularité animale.
Alors comment procède-t-on ?
Alors comment procède-t-on ? Ce qui d'abord la question du vivant pour la phénoménologie est la question absolument centrale, puisque ce qui intéresse la phénoménologie, c'est de penser la corrélation, hein, pour reprendre le terme, la corrélation entre un sujet et un objet, hein, pour le dire simplement. Donc comment est-ce que un sujet vivant se rapporte à une extériorité. Hein, c'est la phrase de Husserl, toute conscience est conscience de, mise entre parenthèses, quelque chose. Pourquoi est-ce que le de est mis entre parenthèses ? Hein, c'est pour montrer qu'il ne s'agit pas d'une opération en trois temps, mais bien du fait que, de façon spontanée, la conscience est intentionnelle, c'est-à-dire qu'elle se dirige vers des objets du monde extérieur qui font sens pour elle. Or, il apparaît, en observant les animaux, leur comportement, qui est évidemment peut-être le concept le plus important chez les phénoménologues qui se sont intéressés à l'animal, c'est partir évidemment du comportement, le comportement des animaux nous révèle que ceux-ci se dirigent dans un monde qui fait sens pour eux. C'est-à-dire qu'en effet, les objets du monde ne sont pas simplement des objets d'un environnement qui leur serait parfaitement étranger et extérieur, mais que ces objets sont bien tout un monde de signification. Donc c'est ce qu'on peut appeler la conscience constituante, hein, pour les animaux. Ces objets sont porteurs d'une signification.
Donc là, il y a trois choses importantes dans ce que vous venez de dire. La notion de comportement. Les animaux ont un comportement au même titre peut-être que les humains. Ils ont un monde. Il y a un monde des animaux, oui, au même titre que nous avons un monde.
Oui, oui, oui.
Et ils ont une conscience surtout.
Voilà.
Il y a une conscience constituante.
Peut-être qu'il faut commencer d'abord par insister sur la notion de conscience qui est la plus complexe, la plus difficile, et là aussi, vis-à-vis de laquelle nous avons ces fameuses lunettes que nous n'arrivons pas à déchausser. Parce que depuis finalement la conception cartésienne de la conscience, hein, nous pensons, en tout cas le sens commun, que la conscience se réduit essentiellement au moment où je fais retour sur mes opérations et sur mes expériences. C'est-à-dire le moment où je ne suis pas simplement en train de vivre mes expériences en première personne, par exemple je suis avec vous dans ce studio, mais le moment où la conscience fait retour conceptuellement sur cette expérience, la formalise, peut porter des jugements sur elle. Or, pour la phénoménologie qui s'intéresse à toutes ces couches de la conscience, à toutes ces strates de la conscience qui visent un objet, cette couche linguistico-réflexive n'est pas la première, n'est pas la plus importante. Elle n'est que l'un des moments de la vie de la conscience. Et remarquons tout de suite qu'elle n'est que l'un des moments de la vie d'une conscience, d'un adulte en pleine possession de ses moyens. Quand je rêve, ma conscience est attachée à d'autres opérations. Lorsque l'individu humain ne possède pas encore le langage, sa conscience fonctionne de façon, enfin, dans des champs qui ne sont pas ceux-là. Et la conscience, les consciences animales, puisque vous aviez insisté à juste titre lundi sur le fait que nous devons parler au pluriel des animaux et qu'il n'y a pas d'homogénéité évidemment de toutes les espèces, eh bien présentent des formes de conscience d'une grande richesse qui sont celles de l'expérience de chaque individu.
Donc cette conscience passe toujours par une expérience. Mais là encore, on en revient à la difficulté pour celui qui réfléchit sur les animaux de se substituer à l'expérience que l'animal ferait de sa propre existence.
Bien sûr, bien sûr. C'est une limite. Alors, nous sommes toujours limités pour finalement comprendre l'expérience d'autrui.
Fut-il, oui, c'est vrai. Entre humains, voilà, c'est tout aussi vrai.
La personne qui nous est la plus proche. Combien de fois nous nous apercevons dans nos vies que nous ne nous comprenons pas les uns les autres. Bon. Mais vous avez raison, cette difficulté est redoublée et ô combien lorsque nous sommes en relation avec les animaux. Et tout le mystère, je crois, de cette relation, c'est d'avoir le sentiment, si on parle des animaux familiers par exemple, d'une très grande coïncidence et en même temps d'une très grande étrangeté, précisément parce que nous ne pouvons pas savoir exactement quel est leur... Qu'est-ce qui se passe dans leur tête, hein, pour le dire très simplement, voilà.
La conduite du chien peut paraître absurde et machinale, tant que le problème à résoudre pour lui est de faire fonctionner une serrure ou d'agir sur un levier, c'est-à-dire d'utiliser des instruments humains. Cela ne veut pas dire que considéré dans sa vie spontanée et en face des questions qu'elle se pose, l'animal ne traite pas son entourage selon les lois d'une sorte de physique naïve, qu'il ne saisisse pas certains rapports et ne les utilise pas pour parvenir à certains résultats, enfin qu'il n'élabore pas les influences du milieu d'une manière caractéristique de l'espèce. Donc, l'animal est le centre d'une sorte de mise en forme du monde. Il a un comportement. Dans les tâtonnements d'une conduite peu sûre et peu capable, à vrai dire, d'acquisitions accumulées, il révèle en pleine lumière l'effort d'une existence jetée dans un monde dont elle n'a pas la clé. C'est sans doute parce qu'elle nous rappelle ainsi nos échecs et nos limites que la vie animale joue un rôle immense dans les mythes des primitifs comme dans les rêveries de notre vie cachée. L'animal nous donne cette surprise et ce choc, lui qui n'entre pas dans le monde humain et se contente de le subir, de nous montrer cependant des emblèmes de notre vie qui, ramenés ainsi au cœur de la nature originelle, perd du coup son évidence et sa suffisance.
Je suis le roi de la danse, oh la jungle est à mes pieds. De la puissance, je suis au plus haut et pourtant je dois vous envier. Je voudrais devenir un homme, ce serait merveilleux. Vivre pareil aux autres hommes, loin des singes ennuyeux. Oh, Roupidou, je voudrais marcher comme vous et parler comme vous, faire comme vous tout. Un singe comme moi, pourrais-je croire être parfois bien plus humain que vous. Marchant avec vous, c'est que je désire le moyen d'être un homme, un point c'est tout. Dis-moi le secret pour être un homme, est-ce vraiment si mystérieux? Pour moi faire éclore la grande fleur rouge, ce serait merveilleux. Oh.
France Culture, le nouveau chemin de la connaissance, il est 10h29, c'est le troisième temps de notre série d'émissions consacrée aux animaux, le miroir animal, c'est le thème cette semaine. Après Elisabeth de Fontenay lundi à propos de la philosophie à l'épreuve de l'animalité, Patrick Dandré, les fables de La Fontaine hier mardi, c'est aujourd'hui Florence Burga, directrice de recherche à l'INRA et membre des archives Oustère de Paris, qui vient s'interroger sur la pertinence de la méthode phénoménologique pour penser l'animal. Florence Burga, qui est auteure entre autres d'un ouvrage intitulé « Une autre existence, la condition animale » publié chez Albin Michel.
devenir comme vous. C'est vrai, je crois, peut devenir comme moi. C'est vrai, je crois, peut devenir comme moi.
Être un homme comme vous, notre façon d'aborder la question de l'anthropomorphisme, pardon, qui se pose d'ailleurs à l'écoute même de l'archive de Merleau-Ponty, hein, qui a prononcé plusieurs phrases assez marquantes. Florence Burga, j'en retiens une qui est particulièrement belle, hein, il dit que l'animal a un comportement, on y reviendra, qui révèle l'effort d'une existence jetée dans le monde dont elle ne détient pas la clé.
Oui, c'est une phrase magnifique. Bon, Merleau-Ponty écrit de façon magnifique et très importante. Alors, une autre existence, hein, qui est le titre du livre dont vous parliez, est empruntée aussi à Merleau-Ponty. Donc, ça n'est pas un terme qu'il a jeté comme ça par hasard, en particulier dans la structure du comportement qui paraît en 42 ou 45, je ne sais plus, en tout cas en pleine période, entre guillemets, existentialiste, poser la thèse d'une existence animale, qui, dit Merleau-Ponty, n'a rien à voir avec la théorie de l'âme des bêtes, évidemment. C'est une proposition philosophique très forte. Et lorsqu'il ajoute ici une existence jetée dont elle n'a pas la clé, dont cette existence n'a pas la clé, je crois qu'il fait apparaître là un pan très important aussi de la question. Le fait que les animaux ne disposent pas du concept, alors probablement ils disposent de notions de généralité et il faudra entrer dans des questions très pointues pour éclairer exactement cela, mais le fait qu'il n'est pas, comme nous en disposons, l'organisation conceptuelle du monde fait non seulement entraîne le fait qu'ils ne peuvent pas tenir à distance des situations, en particulier lorsqu'elles sont inquiétantes, de leur propre expérience. Donc, dire que l'animal est une existence jetée dans cette existence n'a pas la clé, montre combien cette vie est à vif, beaucoup plus que lorsque nous pouvons, par les moyens de la connaissance ou du concept, mettre à distance, en particulier, des expériences traumatisantes, douloureuses, etc.
Oui, mais c'est le cas pour l'homme aussi. L'homme n'a pas non plus, ne détient pas la clé du monde dans lequel il vit.
Alors, il peut tout de même, il ne détient pas la clé, en tout cas, il propose de rationaliser ce monde. Il propose des croyances, des mythes, des explications, il a la science. Donc, tout son effort consiste précisément à organiser ce monde, à lui donner un sens, et ce faisant donc à le poser en face de lui dans le concept. Tandis que l'expérience de l'animal, et je pense que c'est aussi ce qui émeut particulièrement dans les souffrances des enfants, c'est précisément de ne pas disposer des outils qui permettent de raisonner une expérience ou de se dire, eh bien, je souffre aujourd'hui, mais on est en train de me soigner, je serai guéri. Bref, je prends un exemple un peu trivial. La possibilité, donc, de mettre à distance les choses par l'explication, la conceptualisation, l'effort de connaissance.
Dans cette méthode, telle que vous la présentez en tout cas chez Merleau-Ponty, on a la notion même de miroir paraît quand même extrêmement pertinente, puisque le Merleau-Ponty pour essayer de quand il s'intéresse à l'animal et qu'il fait l'effort peut-être de se mettre de ressaisir l'expérience même de l'animal et sa conscience, qui parle de cette existence jetée dans le monde, est-ce que en dernière analyse, qu'est-ce qui l'intéresse vraiment, n'est-ce pas? Est-ce que cette réflexion ne s'inscrit pas dans le cadre d'une réflexion plus large sur la place de l'homme, de l'humain dans le monde, tel quel l'animal ne serait qu'un moyen pour essayer d'élucider ce mystère initial?
Alors, évidemment, il y a plusieurs façons de faire valoir chez les auteurs telle ou telle question. Je crois que la question de l'animal est suffisamment récurrente dans l'œuvre de Merleau-Ponty, y compris dans son cours sur la nature, pour montrer qu'il s'intéresse à la question en elle-même. Il considère en tout cas, comme Husserl, que si on veut comprendre le monde, on ne peut absolument pas exclure de la réflexion philosophique la présence animale dans ce monde, qui appartient de fait à notre expérience du monde.
Donc c'est une réflexion sur le monde qui le conduit à réfléchir sur l'animal.
Je crois que c'est une réflexion sur le monde qui le conduit à s'interroger sur l'animal, mais il y a plusieurs entrées. Ça peut être celle de la perception, celle du comportement... Je pense qu'il y a plusieurs entrées pour Merleau-Ponty qui justifient son intérêt pour la question animale.
Et en tout cas, il dit également que l'animal a un milieu, comme un centre.
Oui, alors ça c'est aussi quelque chose de très important, la mise en évidence du fait que l'animal a un soi, qu'il est le centre à partir duquel ses expériences s'organisent. Et là aussi, bien sûr, on est loin de la pensée classique, ou de la pensée cartésienne encore plus, qui ne fait pas de différence donc entre les objets, les corps naturels et les corps artificiels, comme on le sait. Là, on voit la grande proximité aussi entre Merleau-Ponty et Canguilhem, dans tous ses articles sur la connaissance de la vie, insistant sur la centralité du vivant, le fait que chaque être vivant est un soi qui se fait son propre milieu. Donc ça, c'est évidemment un des traits très importants de la biologie du vivant canguilhémienne et pas seulement.
Ce qui conduit à indexer la subjectivité sur l'organisme.
Oui, ce qui conduit à indexer la subjectivité sur l'organisme, absolument, et à retrouver donc une pensée qui vraiment met à mal tout le dualisme de l'âme et du corps. Alors il y a bien sûr la référence à Kurt Goldstein, qui son livre La structure de l'organisme. Donc c'était un neuropsychiatre. Qui dans ce livre un peu expérimental, où il essaye de construire vraiment la notion d'organisme, notamment à partir de son expérience de psychiatre qui a soigné des blessés du cerveau de la Première Guerre, d'essayer de penser vraiment cette unité psychosomatique et montrer que l'organisme n'est pas dans un rapport de dualité où une partie de l'organisme agit sur l'autre, mais bien que ces deux parties en fait sont absolument indissociables, indéchirables. Et il y a bien sûr dans l'effort de la phénoménologie, et en particulier donc dans ce concept de comportement, la mise en évidence d'une subjectivité qui affleure à même le comportement. C'est-à-dire que le comportement n'est pas déclenché mécaniquement par une pensée, mais qu'il est complètement innervé par la vie psychique, que la vie psychique est présentée de manière directe, indirecte, à présenter, comme on le lit dans la cinquième méditation cartésienne de Husserl, est à présenter dans le comportement, que c'est le comportement qui est l'indice d'une vie psychique.
Et cette vie psychique, de même que le dualisme est dissous,
oui,
dans la notion de comportement,
oui, oui,
de même la distinction entre la subjectivité et le monde est également, alors non pas dissoute, mais comme prise dans le même tissu, dirait Merleau-Ponty.
Absolument.
Ça veut dire qu'on dit que les animaux ont un monde, mais en fait ils sont un monde.
Ils sont un monde, oui, oui. Donc, si vous voulez, la radicalité de l'interrogation phénoménologique, qui vraiment se place dans cette origine absolue, qui est la façon dont le vivant est en rapport avec ce monde, permet de penser complètement autrement la question et s'éloigne de façon radicale de la manière classique de s'interroger sur l'animal en se demandant qu'est-ce que l'animal a de moins que l'homme.
En tant qu'homme, nous faisons l'expérience des bêtes d'abord comme étant là, avec nous, dans le monde environnant, familier. Et en tant que dangereuse, ou par moments dangereuse, excitée, méchante, ou en tant qu'inoffensive et amicale. Ensuite, nous comprenons les bêtes dans leur être ensemble. Évidemment, nous trouvons d'abord les instincts et les expériences en nous, et nous comprenons à partir de là, ou croyons comprendre, comment les bêtes vivent générativement ensemble. Mais qu'importe la façon dont nous élargissons notre expérience, des hommes et des bêtes, des hommes de différentes races, des bêtes de différentes espèces, sont par avance là, dans le monde, qui est pour nous, et appartiennent au monde qui nous est donné, dans les modes subjectifs et respectifs, du familier et de l'étranger. Et ainsi, le monde des bêtes est toujours déjà esquissé.
Il n'y a vraiment pas de quoi avoir honte. Ça arrive même aux hommes de temps en temps. Tu es probablement sous pression.
Bien sûr que non, il n'est pas sous pression. S'il ne me trouve pas à son goût, c'est parce que je ne suis qu'une pigeonne. C'est un pigeon qui est mal dans ses plumes.
Je proteste vigoureusement.
Demande-lui ce qu'il fait toute la journée, vas-y.
Je me pose sur une branche pour méditer.
Parce qu'il se trouve trop bien pour manger à la cantine, quand les vieux viennent nous lancer les bouts de pain.
Je peux parler?
Et dès qu'il voit un rouge-gorge en décolleté, il se tient plus, il est complètement marteau.
J'adore le rouge, j'ai dû être taureau dans une autre vie. Ça m'excite.
Tu n'es pas un rouge-gorge, ni un faucon, ni un vrai d'ailleurs, tu es un pigeon. Et
faut
moi, excusez, une pigeon.
Reste clou,
je sais pas ce que tu
bouffes,
mais moi je ne comprends pas, ce sont des pigeons aussi.
Et tu peux me donner ton avis? Si je mets comme ça de profil, tu trouves pas que je ressemble un peu à un jet?
Alors voilà l'extrait de Dr. Doolittle ici, cette espèce de dispute conjugale entre deux pigeons, soulève une question qui est implicite dans le texte de Husserl que j'ai lu, tiré de la phénoménologie statique et génétique, texte au titre barbare et pourtant assez compréhensible, il me semble, qui postule la présence des animaux, d'une relation à l'animal plus exactement, qui est toujours déjà esquissée dans le monde. Mais finalement, alors du coup, quelle différence? Il n'y a plus de différence entre l'homme et l'animal ici, Florence Burga.
Ce que Husserl dit, et on revient donc à cette idée, la radicalité de cette interrogation, partir du toujours déjà là du monde, de fait, les animaux sont là dans le monde avec nous. Nous les rencontrons. Et Husserl dit dans un autre texte que si le philosophe ne parvient pas à clarifier la question de savoir comment les animaux, les fous, les enfants, comment ils ont, quel est leur rapport au monde, eh bien, la question de la détermination du monde restera en suspens. Donc, il y a vraiment un souci de comprendre dans sa globalité comment l'ensemble des consciences de fait vivantes et existantes dans le monde se rapportent à l'extériorité. Donc, il y a, si vous voulez, il n'y a pas la décision d'exclure de l'interrogation philosophique une partie des consciences, puisque ce qui intéresse la phénoménologie, c'est bien cette intentionnalité qui se rencontre de fait, de façon différente, chez les animaux et chez des humains qui diffèrent de la norme à partir de laquelle, montre Husserl, je peux essayer de comprendre l'autre, ce qu'il appelle la reconstruction empathico-analogique. Donc il y a une disposition d'empathie qui fait que je peux m'identifier à une autre forme vivante. Plus elle est éloignée de ma propre forme vivante et de ma propre façon de me comporter, plus j'ai du mal à la comprendre. Cependant, je décèle des analogies, quand il dit, ben voilà, l'insecte a deux yeux, il a des pattes, et surtout, il a ce comportement que je peux comprendre parce qu'il y a dans la cohérence et dans la finalité de tout comportement quelque chose qui évoque mon propre comportement dans le monde.
On retrouve l'idée de miroir ici. Mais alors, deux questions à partir de ce que vous dites ou de ce que Husserl en dit. Comment être sûr que nous autres, êtres humains, faisons partie du même monde? Comment postuler l'existence d'un monde humain et d'un monde, et du coup à partir d'un monde animal? Et surtout, comment est-ce que finalement le recours à l'animal n'est pas aussi une façon, une analogie, comme il dit, de penser aussi la relation interhumaine? Finalement, je postule de la même façon, vous parliez de le terme empathico...
Analogique,
oui. Fonctionne d'un humain à l'autre également.
Oui, bien sûr. Alors, cette question des mondes, il faut bien comprendre que là aussi, comme lorsque nous évoquions tout à l'heure la conscience et les différentes couches de signification, nous n'avons pas rapport, nous ne sommes pas toujours en rapport avec le même type de monde. Husserl va distinguer le monde de la vie, qui est ce monde toujours déjà donné, qui est le monde de la certitude du vivre, qui est aussi celle des animaux, cette espèce de certitude que nous avons d'être dans le même monde tous les jours, que Husserl va distinguer du monde de l'attitude naturelle, qui est celle de ma vie quotidienne, du monde, par exemple, spécifique, qui sera celui du mathématicien en train de faire ses mathématiques, qui est un monde qu'il va délaisser au moment où il ferme son bureau et où il va qu'à ses occupations, retrouvant le monde de l'attitude naturelle. Donc il faut bien voir qu'il y a différentes strates de signification dans ce que nous visons ici comme le monde. Alors, ce qui a peut-être été le mieux mis en évidence concernant Les mondes animaux, c'est le fameux, les fameux travaux de Jacob von Uexküll, mondes animaux, monde humain. Encore que sur la question du monde humain, on pourrait discuter sa thèse. Mais donc, ce qu'on désigne par monde, c'est pas quelque chose qui est fixe et qui est figé. Il y a toute une esquisse de monde selon nos activités. Pour revenir aux animaux, prenons le cas de l'animal familier qui, d'une certaine manière, habite dans plusieurs mondes à la fois. Il entre dans le monde humain et il est bien obligé, vivant dans la maison de l'homme, d'être en rapport avec les objets familiers de l'homme. Et il va avoir un rapport à ces objets qui n'est évidemment pas le même que celui que les personnes humaines de la maison ont à ces objets. Donc il faut bien voir que le monde ne fait rien d'autre que désigner, à un moment donné, une couche de signification qui varie au fil de mes activités.
Et donc sur le deuxième point, sur la relation empathico-analogique qui permet à l'homme de postuler un accès à la subjectivité animale, là, est-ce qu'on peut y voir aussi un modèle de relation interhumaine ?
Oui, bien sûr. Et dans la crise des sciences européennes notamment, où Searle s'interroge sur l'infinie distance qu'il y a entre, il prend ce cas, l'Européen adulte, universitaire, et puis le paysan chinois ou le papou. Et il dit que les mondes culturels sont extrêmement divers et que là aussi je dois mettre en œuvre ce processus de reconstruction empathico-analogique pour m'approcher de toute subjectivité qui m'est de toute façon plus ou moins étrangère. Étrangère au sens de son éloignement au regard de la norme que je suis toujours à moi-même pour comprendre ce qui m'entoure.
C'est la notion de norme qui est remise en question avec l'étrangeté même que nous propose l'animal.
Alors, pour Husserl, cette norme, ce qu'il appelle les anormalités, qui n'est pas du tout, un jugement dépréciatif dans le texte de Husserl, c'est vraiment...
C'est plus comme quand Guilhem l'entend, c'est ça?
Oui, c'est vraiment une notion, on pourrait dire, purement logique. Je suis ce à partir de quoi je peux penser ce qui m'entoure. Donc je suis toujours, d'une certaine manière, la norme à partir de laquelle je vais comprendre tout ce qui autour de moi fait figure d'anormalité, bon, plus ou moins. En fonction de la distance qui me sépare de la compréhension d'autrui. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black night. Black night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise.
You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
De la dispute conjugale des pigeons au Blackbird des Beatles, la boucle est bouclée. Un grand merci à vous, Florence Burga, d'être venue nous parler de la phénoménologie animale aujourd'hui. Je renvoie les auditeurs à vos ouvrages. Une autre existence, la condition animale, c'est chez Albin Michel. Liberté et inquiétude, on en parlait en début d'émission, de la vie animale aux éditions Quimet. Et enfin, Animal, mon prochain, aux éditions Odile Jacob. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h51. Encore deux minutes, papillon, il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, Géraldine Mosna-Savoie.
Souvenez-vous du présage. Souvenez-vous de l'oracle de Calcas.
Deux rois s'avancent dans la plaine. Deux rois planent au ciel. L'aigle noir et l'aigle au dos blanc. Leurs serres tiennent une hase. Leurs becs ont déchiré la bête pleine et sa portée.
C'est au début de l'Agamemnon d'Eschyle qu'a lieu ce présage. Ces deux aigles qui dévorent sous les yeux de l'armée entière une hase pleine et ses petits qui ne sont pas encore nés. Et on ne peut pas s'empêcher alors de penser au sacrifice qui suivra, celui d'Iphigénie par son propre père, Agamemnon. Cet exemple, c'est la philosophe américaine Martha Nussbaum qui le convoque dans son livre « La fragilité du bien », qui paraît aujourd'hui en français mais qui est paru, il faut le dire, il y a déjà 30 ans aux États-Unis et qui a déjà eu plusieurs éditions. Alors Martha Nussbaum, c'est comme Michael Walzer dont j'ai parlé hier, c'est une des plus grandes philosophes contemporaines qui, dès cet ouvrage et avec les suivants, a eu et a encore une influence majeure dans la philosophie morale et politique. Quand elle évoque la figure d'Agamemnon et le sacrifice d'Iphigénie, ce qu'elle souligne, c'est l'attitude condamnable du héros qui n'a rien ressenti, qui n'a ressenti aucune émotion dans le meurtre de sa propre fille. Et là est bien toute la clé de l'œuvre de Nussbaum, avoir mis l'accent sur l'importance des émotions dans la formation des individus, mais aussi dans leur engagement citoyen. On s'est d'ailleurs tous déjà posé cette question. La passion m'a-t-elle rendu aveugle? Ou est-ce là que j'ai été le plus libre avec moi-même? Eh bien, entre les romantiques et les cartésiens, Nussbaum ne choisit pas et n'a toujours pas choisi. Au contraire, comme elle l'explique, les tragédies grecques ne révèlent pas seulement la vulnérabilité de l'homme face à la fortune, face à son destin et face à ses sentiments déchirants. Elles nous révèlent plutôt que nous ne sommes ni condamnés à l'appel du sensible, ni condamnés à l'inverse, c'est-à-dire à être comme le froid Agamemnon. Nussbaum donne ainsi un pouvoir cognitif aux émotions, celui d'être les présages de notre vertu, celle à dépasser le tragique de ce que l'on croit inévitable.
Merveilleuse Martha Nussbaum, merveilleuse. Dont on attend le passage en France afin de pouvoir faire des émissions avec elle, l'appel est lancé.
Avec grande impatience. Donc Martha Nussbaum, La fragilité du bien, c'est paru aux éditions de l'Éclat.
Merci beaucoup Géraldine et merci à tous. Les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour la suite et fin, cette fois-ci de cette semaine consacrée aux animaux, au miroir animal. Demain, ce sera Julien Roumette qui viendra vous parler de Romain Gary, grand défenseur et amoureux des animaux et en particulier, des éléphants dans Racine du Ciel et du chien dans Chien Blanc. D'ici là, pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des nouveaux chemins. Vous pourrez la réécouter en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, à l'heure qui vous arrange le plus. Et rendez-vous également sur nos pages Facebook et notre compte Twitter où nous mettons en ligne quotidiennement l'émission du jour et attendons vos remarques et commentaires.